des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter cette émission des livres plein les oreilles. J'espère que vous avez pu feuilleter des pages et des pages, écouter des chapitres et des chapitres de beaux livres qu'on vous présente ici à cette émission à chaque semaine. Aujourd'hui, je vais retrouver notre ami Jean Brière. Il me semble que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Jean à cette émission-là. En seconde partie, il y a Luc Mercure, bénévole, qui va venir nous parler d'un livre aussi qu'il a beaucoup apprécié. Il s'agit de Les inquiétudes de Jean-Simon Desrochers. Et puis, mon invité en première partie de cette émission, ce sera Dominique Bertrand pour un livre qui s'appelle Le cœur gros. Et je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, mais c'est un titre et c'est une image qui m'a, rappelé quelques souvenirs. Je me suis dit, il faut qu'on en parle avec Dominique Bertrand. Et elle est là. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Mais sans plus tarder, on va se diriger vers Québec avec Jean Brière. Bonjour Jean.
Bonjour Clotilde, comment allez-vous?
Mais je vais très bien, écoutez, vraiment, je peux pas... Je suis une femme comblée, satisfaite. Ça fait 3 semaines que je fête mon changement de décennie et ça me va très bien en fait, j'ai l'impression que...
Ah, c'est ça qui vous sent heureux, là.
Oui, tout le monde m'avait dit, tu vas voir, 60, c'est l'horreur. Mais pas du tout, j'adore ça.
J'osais pas vous demander quelle décennie vous commenciez.
Ben, je suis passé de 30 à 40, enfin en fait, mais non, c'est ça. Bon, si nous arrêtions de parler de mon saint anniversaire, Jean, vous nous parlez aujourd'hui d'un livre que je voudrais que vous nous présentiez, s'il vous plaît.
Oui, un roman bouleversant qui s'appelle « Station Eleven ». Eleven, le chiffre 11 en anglais. Un roman de 424 pages qui a été écrit par une dame, Emily St. John Mandel, une dame de 38 ans. Hein. Et le roman a été publié, c'est très récent, 2016. Il est disponible à INCA.
OK, d'accord.
Et je précise que j'ai du goût parce que j'ai lu ce roman avant même qu'il soit promu. Il a reçu un titre de prix des libraires de 2017.
Ah oui,
à Montréal.
Hein? OK, oui. D'accord.
L'auteur est venu le chercher au printemps.
OK, oui. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous faire découvrir. Alors, ce livre bouleversant, pourquoi?
Alors, c'est un roman de science-fiction, d'anticipation. Certains appellent ça un roman de dystopie là, qui imagine un avenir sombre pour l'humanité. Et c'est un roman canadien, comme on l'a mentionné. Bouleversant, j'y reviens un peu plus tard. Je vous décris brièvement l'histoire.
Oui.
C'est que dans ce roman, une épidémie de grippe foudroyante tue 99% de la population. Et en peu de temps, là, la civilisation telle qu'on la connaît s'effondre, disparaît. Les humains qui survivent sont pas chanceux parce qu'ils doivent composer avec une nature sauvage, mais ils reviennent pratiquement à l'âge du cheval. Il n'y a plus de gouvernement, plus de technologie, plus rien, plus de médecins, plus d'électricité, de pétrole, etc. Alors, la vie redevient très, très...
sauvage, à l'état brut. À l'état brut.
Oui. Les gens doivent se débrouiller avec des vestiges de la civilisation, des objets, des véhicules automobiles, des véhicules de camions, de toutes sortes de trucs, mais plus rien ne roule. On les fait tirer par des chevaux. Et puis, 20 ans après la pandémie, bien, il y a des survivants qui se sont installés dans des petits villages, dans des hameaux. Et on suit une troupe de théâtre qui circule au travers de ces hameaux-là pour aller divertir un peu la population avec des pièces de théâtre de Shakespeare et un peu de musique avec tous des instruments acoustiques.
Oui.
On n'a plus d'électricité.
Construit avec les moyens du bord.
Ouais,
sûrement.
J'ai reçu des fois des vestiges des, okay. du temps passé.
D'accord, les artefacts.
Les maisons, les magasins, les infrastructures sont restées debout, mais en général, sont devenues inutilisables faute d'électricité. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, puis cette troupe de théâtre, il lui arrive toutes sortes de vicissitudes. C'est très, très intéressant. La vie des humains est devenue, elle est toujours possible, mais elle est très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, et elle est devenue très, très difficile. Les maladies sont souvent mortelles, faute de soins.
Bien sûr.
Et puis, évidemment, comme dans toute situation chaotique, ben, il s'installe un certain totalitarisme, une terreur causée par des bandes armées. Alors, c'est le Far West, c'est le retour du Far West tel qu'on l'a vu dans des films dans le passé. Alors,
c'est peut-être un petit peu, excusez-moi de vous interrompre, Jean, mais à l'image de vos derniers mots, je me disais, ça ressemble aussi quelque part à ce qui peut se passer en ce moment ici, alors que nous sommes encore en pleine civilisation, électrifiée, numérique, voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est voulu pour ça, mais... moi, je pense à ça tout de suite, parce que je veux dire, les cow-boys, hein, il y en a partout en ce moment dans la vie. Hein.
Oui, puis parfois, la réalité dépasse la fiction. Ça,
c'est Dominique Bertrand qui s'exprime là et qui nous souffle.
Bonjour,
ses,
M. Brière.
Bonjour, Mme Bertrand.
Alors, qu'est-ce qui... Vous avez ouvert...
Mon expression bouleversant.
Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est très bouleversant parce que... ce roman-là est justement renversant de réalisme. Souvent, dans des romans de science-fiction, dans des romans qui imaginent des catastrophes, les catastrophes sont causées par les humains ou par des méchants qui ourdissent des complots extrêmement compliqués. Là, c'est tout simple. Un virus dangereux, un virus inconnu des humains qu'on n'a pas vu venir et qu'on n'est pas capable de soigner, ça tue la population. Les gens restent pris avec des infrastructures dont ils ne peuvent plus vraiment s'utiliser. Et ce qui est bouleversant, c'est que c'est plausible. Ça peut arriver.
C'est ça.
Ça pourrait arriver.
Oui,
c'est
ça fait froid dans le dos, hein?
Oui, quand on sait que tout le monde a le doigt sur le bouton rouge actuellement les armes nucléaires, c'est des choses qui peuvent se produire.
Et quand on sait que les scientifiques s'intéressent de près à la fonte des glaces qui font surgir ou ressurgir des virus qui étaient jusqu'à
qu'on
présent...
Qu'on pensait éradiquer.
Ben voilà, qu'on pensait être éradiqués, puis qui sont en train de ressortir. Alors, c'est pas... J'ai une question pour vous, Jean. Vous nous l'avez dit, c'est une œuvre de science-fiction. Les gens qui n'aiment pas la science-fiction, est-ce qu'ils pourraient malgré tout aimer ce livre?
Parce que là,
j'en entends déjà nous dire « Oui, mais moi, la science-fiction, j'aime pas ça.
Ouais. »
Mais moi, il me semble que ce bouquin-là, ça va au-delà quoi, de l'œuvre de la science-fiction. Ça va au-delà de, je sais pas, d'une ou... Non?
Vous savez, on le classe parmi science-fiction, mais c'est pas tout à fait le cas.
Ouais,
c'est plus
ça.
Anticipation. Parce qu'il n'y a pas vraiment de science assommante là-dedans, puis d'explications complexes.
Ouais.
C'est ça qui est fantastique, c'est que souvent on imagine des scénarios extrêmement complexes et extrêmement invraisemblables, alors que celui-là, il est vraiment très, malgré tout, très possible. Puis on assiste vraiment dans des flashbacks à la chute de cette civilisation-là telle que... et c'est très, très émouvant.
Ah,
c'est
très
émouvant, c'est palpitant, ça se lit bien, c'est bien écrit. La jeune auteure, je pense que je peux y établir une filiation un peu avec Margaret Atwood, j'ai lu il n'y a pas longtemps.
Mais oui, parce que quand on pense à La Servante écarlate, c'est quand même aussi... elle écrit en anglais et c'est traduit? Ou est-ce
oui, c'est traduit, c'est très bien traduit.
C'est très bien traduit.
C'est un très, très beau roman. Et je pense que c'est une auteure qui a de l'avenir. Je vais surveiller son nom dans les prochaines années.
Mandel, M-A-N-D-E-L, hein?
Oui, Mandel, exactement.
Okay. Quelques critiques que j'ai glanées à droite et à gauche. Dans Le Figaro, on écrit « L'auteure canadienne a imaginé un monde fantôme, donc cauchemardesque, hein, vous l'avez dit, peuplé de silhouettes vacillantes et de prédateurs illuminés. » dans Télérama, on disait « Dans ce roman post-apocalyptique, la chute de l'humanité se fait tout en douceur, l'occasion d'un bel hymne à l'art qui nous sauvera tous. » Parce que le théâtre, hein, et notamment le roi Lear, hein, de Shakespeare, c'est un personnage central, hein, dans ce livre-là, Jean Brière.
Tout Tout à fait, tout à fait. L'histoire commence justement lors d'une pièce, d'une représentation de cette pièce de théâtre de Shakespeare. Et puis tout au long, on y fait référence. Parce qu'il faut être très bien éveillé quand on écoute ce roman, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de remontées dans le temps, de retours. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit. Et puis il y a des passages savoureux, des passages fantastique.
Ah, oui.
On voit que les gens qui ont survécu, ceux qui se souviennent du temps passé, ils vivent dans cette nostalgie, dans cette mémoire du temps passé. Oui. Et les plus jeunes, parce que l'action principale se déroule 20 ans après la catastrophe, eux, on leur parle du temps passé qu'ils n'ont pas connu.
Oui.
C'est vraiment fascinant.
Oui, exactement, parce que là, les mômes qui n'ont jamais connu, ne serait-ce que l'électrification, c'est quand même... C'est quand même quelque chose, quoi.
Oui, et les gouvernements, la police,
l'organisation sociale.
Voilà, c'est ça. Oui. Et puis l'art comme mécanisme de survie. Hein, dans Le Devoir, je ne sais plus quel journaliste, quel critique avait écrit cette phrase que j'avais trouvée très belle. Puis il disait, c'est peut-être ce qui subsiste de plus fort dans Station Eleven. Juste pour finir, Station Eleven, ça correspond à quoi exactement? C'est un endroit de vie où se retrouvent tous ces gens-là?
Non, c'est une bande dessinée qu'avait écrit un personnage et qui a survécu, qui s'est transmis dans les années après la catastrophe. Et on y fait, les gens qui n'ont pas connu le contexte de la bande dessinée, ils font des interprétations, comme aujourd'hui on fait des interprétations à partir d'artefacts préhistoriques.
Vraiment formidable. J'ai très envie de me plonger dans ce livre-là, Jean. J'espère que c'est la même chose pour nos auditeurs. Je rappelle le titre, Station Eleven, Eleven comme 11, d'Emily St. John, comme ça se prononce, comme John le prénom ou la ville, Mandel, M-A-N-D-E-L. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir parlé avec tant d'éloquence de ce bouquin-là. Vraiment, ça donne envie.
Ça a été un plaisir. Passez une belle journée.
Au revoir,
vous aussi.
Brière.
Au revoir, Jean. Bonne journée. Rebonjour Dominique Bertrand.
Rebonjour.
Ravi vraiment de vous recevoir.
Merci
à
beaucoup
cette
de m'inviter.
Mais écoutez, ça nous fait plaisir. J'ai envie d'abord de vous demander, avant qu'on embarque dans vos livres, d'abord c'est comment allez-vous et que faites-vous, Dominique? Parce que depuis que j'ai dit à droite et à gauche que je vous recevais, ils m'ont tous dit, mais elle fait quoi maintenant, Dominique Bertrand?
Ben, j'écris chez moi en pantoufles dans ma cuisine.
Dans votre cuisine?
Dans ma cuisine.
C'est vrai?
Alors, j'ai tous les meilleurs endroits du monde pour écrire, puis finalement, j'aboutis toujours dans la cuisine. Je trouve que c'est le cœur de la maison.
Ouais.
Et je ne sais pas pourquoi, quand je veux m'évader, en plus de mon labeur, ben, je peux toujours aller grignoter un biscuit, me prendre une pomme. Bon, alors la cuisine est devenue pour moi un lieu de travail.
Le labeur, pas facile d'écrire. Hein?
Non, très difficile.
Ah, c'est vrai?
Très, très, très difficile. Je dirais même que je pense que plus c'est facile à lire, plus ça a été difficile à écrire.
Ah oui?
C'est très, très difficile. Pour moi, ça demande une discipline que je n'ai pas spontanément.
Uh-huh.
Alors, je suis toujours tentée d'aller manger avec une amie, d'aller prendre un bain, d'aller promener mon chien. Bon, mais je m'astreins à chaque jour à lire, à travailler, à regarder mon manuscrit. Henry Miller a déjà dit, on ne peut pas créer tous les jours, mais on peut cimenter notre texte tous les jours. Alors, parfois, quand je sens que l'inspiration me manque, mais au moins, je travaille à la qualité de mon texte. Et puis, chaque jour, je dois m'asseoir devant mon manuscrit. Si je m'éloigne, je perds le souffle.
Même le samedi, puis même le dimanche.
Oh, ça, mon mari veut pas, mais moi, je trouve toujours un moyen de le faire en cachette.
Alors, y a ce livre qui m'est tombé dans les mains. Donc, on va commencer par ce troisième. Et je voudrais aussi qu'on aborde deux autres livres que vous avez écrits précédemment. Et je précise que les trois livres sont disponibles via le SQLA, qui est ici le service québécois du livre adapté, donc que nos auditeurs connaissent bien. Le cœur gros. Je vous présente la page de couverture représente une enfant, un ou une enfant, mais non, une enfant,
oui.
Très, très enveloppée. Alors, elle est présentée comme une toile, hein, comme on peut imaginer une toile.
Parce que c'est ça, en réalité.
C'est ça, hein, c'est ça.
Oui, exactement. C'est une personne, c'est une enfant qui a déjà existé à la cour d'Espagne.
D'accord.
Et d'ailleurs, on retrouve ce tableau-là au Prado. Et cet enfant était invité à la cour d'Espagne pour qu'on rie d'elle. Alors, c'est une enfant obèse et qui amusait les gens par la différence de son physique. c'est pas anodin que je l'ai. Mais j'ai décidé de la mettre sur la page couverture.
C'est pour ça que je voulais commencer par cela.
Oui. En fait, cette image-là annonce toute la souffrance que le personnage central va vivre.
Exactement. Et en même temps, une souffrance. Je me faisais la remarque en lisant ce livre. J'ai trouvé que, oui, souffrance, mais en même temps, elle se plaint rarement. Je veux dire, oui, il y a des fois où tout d'un coup, ça sort d'elle. Elle en a marre. Et c'est d'ailleurs bouleversant. À un moment donné, je vous en lirai quelques extraits. Bon, comme par exemple, tenez, là, en page 38, ici, j'avais relevé ça, une phrase que j'ai trouvée vraiment terrible. Ah oui, c'est lorsqu'elle apprend que la grossesse, ça défigure les mamans, et que bon, sa mère, qui ne pense qu'à la beauté, etc.,
elle est obsédée par l'image.
Et la petite dit, bref, c'est ainsi que j'appris ce soir-là qu'il est possible à un simple poupon de détruire à jamais la beauté de sa mère. Ouf.
C'est dur, hein?
Ouf. Voilà comment j'ai découvert, accroupi sur la première marche du haut, quel bébé j'avais été. Une reine de la tétée. Quoi, une ogresse de l'allaitement, rien de moins qu'un vampire sans scrupules, suçant en même temps que le lait de ma mère toute la gloire éclatante de sa jeunesse, pour ensuite l'expulser au fond d'une couche huggies, je ne sais pas si on dit comme ça, inextricablement mêlée aux produits gluants de mes intestins. Ah non, mais en plus, je veux dire, elle est pas idiote, hein,
non.
Mais puis...
Elle est très intelligente.
Elle est très intelligente, elle est très éveillée, mais quelle souffrance!
Oui, une souffrance, un isolement.
Voilà, c'est ça.
La sensation de ne pas être comprise.
Oui,
voilà. Elle doit passer à travers ça.
Mais en même temps, elle a la volonté de s'en sortir, elle a la volonté de passer outre, elle a la volonté...
Elle veut vivre des choses, elle veut vivre de l'amour,
elle veut morte
dans la vie. C'est une enfant sensible, talentueuse, musicienne, et comme vous le disiez, une enfant supérieurement intelligente. Alors pour elle, elle se sent prise dans un univers qui n'a rien à voir avec elle, où les valeurs qu'on impose socialement lui interdisent, dans le fond, de cette liberté-là de vivre. Elle a l'impression qu'elle vole sa vie.
Oui, exactement.
Oui.
Et alors, comme vous le dites très justement, elle est donc très différente de tous ceux qui l'entourent. Elle a une sœur qui est une beauté fatale,
splendide.
Elle a un frère, bon, c'est un gars.
Exactement.
C'est un gars de cet âge-là.
Un monosyllabique, qui n'a jamais une occasion de lui envoyer des niaiseries.
Exactement.
Bon, alors, c'est pas lui qui va prendre sa défense.
Le père, tu sais, qui a un humour un peu gras.
Le père l'appelle mon petit lard d'amour. Ça aide pas beaucoup.
Puis la mère, elle la voit pas. Alors comme ça, la mère...
Non, l'enfant est absolument...
Inexistante,
transparente, aux yeux de la mère.
Pour éventuellement descendre le chandail quand il y a un bout de bédaine qui
débarque. Oui, exactement. En fait, t'es visible, mais pas de la bonne façon. Essaie de disparaître encore plus. C'est un peu ça.
C'est rough. C'est vraiment très dur. Mais par contre, je vais vous dire bravo, Dominique, parce que... Il n'y a jamais d'apitoiement.
Non.
Jamais, de la part de cette gamine.
Oui, il y a vraiment de la résilience chez cet enfant-là, une détermination incroyable. Et puis, on la sent, malgré tout, assez en contrôle. On sait qu'elle va s'en sortir. On sait qu'elle va aller loin.
Oui, c'est vrai. Hein?
Oui, on sent ça.
Oui, c'est vrai. Je me suis... D'ailleurs, il y aurait peut-être... Non, pourquoi je penserais une suite?
C'est drôle, ma mère m'a dit ça aussi. Je ne pense pas qu'il y ait de suite. En fait... Je pense que je voulais justement laisser le lecteur imaginer la vie de cet enfant-là. Qu'est-ce qu'elle va choisir comme suite à sa vie?
Alors voilà, je le disais, il y a des passages douloureux. Soucieuse de mon image, maman me fait des signes discrets pour me rappeler de tirer sur mon pull. Hein, je viens d'en parler.
Ouais.
Au bout du compte, la condition adipeuse est un art qu'on ne peut maîtriser qu'en ayant des yeux tout le tour de la tête.
Oui.
C'est très bien écrit, avec des passages comme ça. Un autre ici. La fatigue me gagne et la force me manque pour me détourner. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas le choix de prendre la mesure exacte de mes dégoûtants débordements dans la glace. Donc, elle est devant une glace. C'est l'une des rares fois où elle prend conscience de son image
et elle prend conscience de à quel point ce n'est pas dans les canons de la beauté actuelle.
C'est ça.
Oui.
Assise sur le tapis... que moirent les rayons du coucher de soleil flamboyant, je luis au beau milieu des bourrelets qui me protègent et m'étouffent à la fois. Un gros ver à soie de tout juste 11 ans, bien rondouillard et couvert de replis, en peut-être rien qu'une grosse patate finalement, que les souvenirs de la fête qui prend fin n'arrivent soudain plus à exalter. Hein, on dira pas tout parce que j'ai pas envie qu'on vous révèle absolument tout, mais il y a quand même un élément très important, c'est qu'à un moment donné, elle tombe passionnément en amour.
Passionnément en amour avec le plus beau gars de l'école.
Évidemment. Évidemment.
Qui en a rien à cirer, on s'entend. Exactement.
Exactement.
Alors ça, pour elle, c'est vraiment très difficile. Et parallèlement à tout ça, on ne dira pas comment, mais elle perd sa meilleure alliée. Elle perd l'accès à sa meilleure alliée, qui était sa grand-mère.
Sa grand-mère.
Et qui ne meurt pas, mais qui n'est plus dans le portrait. Et pour elle, c'était la seule personne qui pouvait la comprendre et qui l'aimait malgré ses différences et qui lui donnait son estime d'elle-même, qui boostait sa confiance en elle.
Sans compter qu'elle se sent très coupable parce que la mamie en question est victime d'un accident cérébral, vasculaire, et que la môme était en train d'écouter de la musique à fond la caisse pour cacher le fait qu'elle mangeait des chips.
Oui.
C'est une image terrible, quoi. Donc, pour éviter qu'on entende les
choses.
Alors, une culpabilité terrible, en plus pour celle qui l'a finalement...
Comment on gère ça quand on a 11 ans?
Comment on fait ça?
Il n'y a pas personne pour la supporter, pour l'écouter. Il n'y a pas personne pour entendre sa souffrance à cet enfant-là, son inquiétude. Elle est toute seule.
Oui.
Elle est toute seule.
Et alors, il y a donc ce Sacha, qui est un petit con, quoi, disons-le.
Clairement.
Un petit fa, oui.
C'est exactement ça. Mais qui, lui-même, au fond, est un peu victime des autres enfants, quand on y pense bien.
Oui.
Alors, lui, elle rencontre ce garçon-là, qui est un ami de son frère, et puis elle est amoureuse folle, là, franchement. Oui. J'évoque d'ailleurs les émois érotiques que ce garçon-là... provoque chez elle, sans jamais vraiment nommer ça, parce qu'on parle d'une enfant de 11 ans, mais qui est en plein éveil des sentiments et de la sexualité,
bien sûr.
Le fond.
Alors, le petit poussin, image.
Oui, exactement.
Le petit poussin dans la culotte.
Oui.
Non, mais c'est comme ça. C'est là, tout d'un coup, quand elle ressent pour la première fois ce qu'elle le désire, finalement, elle a l'impression qu'il y a un petit poussin
qui s'éveille dans ses culottes.
Exactement. En tout cas,
je trouvais que c'est très poétique.
Absolument.
Et puis, ça finira pas bien, cette histoire-là.
Non.
Ça finit pas bien. Et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui vivent ce genre de désillusion, de désespoir,
absolument,
pour toutes sortes de raisons. Vous savez, quand on est jeune, toutes les différences sont difficiles à assumer. Elle, c'est une obésité. Dans mon cas, c'était la maigreur. Et j'ai vécu... En fait, j'ai beaucoup pigé dans mes propres émotions d'enfant pour créer Ariel. Puis... Et pour d'autres enfants, c'est d'avoir les yeux croches. Pour d'autres enfants, c'est de porter des lunettes. Pour d'autres enfants, c'est d'avoir un handicap physique. Quand on est jeune, être différent, c'est toujours extrêmement difficile à assumer.
Oui, surtout que les jeunes entre eux c'est d'une méchanceté.
Exactement, ça pardonne pas. Là.
Les cours d'école, là.
Non, c'est terrible.
C'est violent.
Exactement. Dire, elle est prise avec, comme on disait tout à l'heure, avec une mère qui valorise l'image et avec une sœur qui est splendide et que le monde entier va découvrir publiquement.
Mm-hmm.
Alors, elle se dit, moi, qu'est-ce qui me reste, finalement?
Qu'est-ce qui me reste? Donc, les gens qui, comme moi, se sont posé la question, comment se fait-il qu'une femme comme Dominique Bertrand, vous avez été mannequin, bien sûr, on le rappelle, entre autres, donc vous connaissez
J'ai
ça
beaucoup
aussi.
Travaillé
vous avez
par
beaucoup
mon
travaillé,
image. Oui,
exactement, par votre image.
Oui.
Alors, on ne s'attend pas à trouver ce livre-là écrit par vous, mais je me doutais qu'il y avait quelque chose...
C'est ma propre souffrance dans un corps à l'opposé
exactement.
Du mien. Alors, j'ai pris une enfant obèse, mais dans mon cas à moi, j'étais maigrichonne, j'étais le vilain petit canard, j'étais moche. Et sincèrement, j'étais seule. J'étais seule parce que j'étais différente. J'aimais écrire, j'aimais lire. Je jouais pas à la poupée comme les autres filles. Alors, j'étais pas mal toute seule dans mon coin. Fait que cette souffrance-là, je sais ce qu'elle peut faire, puis je sais comment elle peut nous ronger par l'intérieur. Alors, je l'ai transposé sur Ariel.
Oui, surtout que c'est le moment... que j'ai trouvé le plus difficile, au début, qui m'a fait sourire lorsque il y a l'affaire du roast beef. Ils font cuire un roast beef à la maison, puis ils s'aperçoivent qu'il était tellement gras que finalement, il reste plus grand-chose au bout une fois qu'il est cuit. Et là, elle se dit, mais voilà, c'est ça l'idée. Alors, elle se plonge dans un bain bouillant en étant sûre que ça va la faire fondre. Puis évidemment, ça ne fonctionne pas. Et là, elle découvre les joies, entre guillemets, de la scarification.
Oui, exactement. Alors,
elle essaie
de s'ouvrir pour faire couler le gras.
Ouais.
Et ça, j'ai fait quand même quelques recherches là-dessus. Et il y a une psychiatre de l'hôpital Sainte-Justine qui me disait, C'est terrible, cette façon de faire. Oui. Mais il faut leur trouver, à ces gens-là, une autre façon d'évacuer leur frustration,
exactement,
leur tristesse, leur rage. Parce qu'elle dit, mais le drame, c'est que ça fonctionne, ça réussit à apaiser leur souffrance, mais c'est une manière qui n'est pas saine.
Il faut qu'on leur
apprenne d'autres façons d'évacuer cette souffrance.
Exactement.
Puis elle se rend compte que, ben non, finalement, quand elle se découpe, quand elle se coupe elle-même, il n'y a que du sang, il n'y a pas de gras qui sort de là.
C'est ça, exactement. Non. Mais il y a un moment donné où, malheureusement, l'exacto devient l'ami et le complice, et comme les bonbons, quoi.
Oui, exactement, comme les bonbons, parce qu'elle mange tout le temps.
Elle mange tout le temps, oui.
Et je vais vous dire, moi, j'ai un ami qui a lu mon livre après avoir été opéré pour un cancer à la gorge et qui ne pouvait pas manger pendant de longs mois alors qu'il était gavé.
Oui.
Il m'a dit, c'était un supplice. J'avais tellement envie de manger des bonbons. Les gens qui ont lu mon livre m'ont dit, ça nous donne envie de retrouver les bonbons de notre enfance à se gave sans arrêt de bonbons. Là, ça n'a pas de bon sens.
Non, c'est ça. Ouais. Écoutez, c'est un... Par contre, je voudrais pas qu'on pense, parce qu'on parle là de scarification.
Mais c'est pas triste.
Ce n'est pas du tout.
On sourit beaucoup.
Non, on sourit, même on rit.
Oui.
On rit, mais il y a ces moments-là qui nous rappellent que cette môme est en détresse.
Oui, exactement. Puis je l'ai écrit aussi en me disant, si ce livre-là pouvait pousser les parents à être plus à l'écoute des signaux de détresse que les enfants donnent.
Oui. Absolument.
J'aurais réussi quelque chose.
Eh bien, bravo. Alors, c'est Le Cœur Gros, signé Dominique Bertrand. Dominique, il ne nous reste plus qu'un petit 2 minutes.
Oui.
On a aussi Démaquillé.
Démaquillé, qui est un livre à saveur autobiographique où
d'accord.
je raconte un peu les valeurs qui m'ont aidé à traverser des moments difficiles dans ma vie.
Okay.
Qui s'est vendu à 25 000 copies. Alors, ça a trouvé preneur, ça a trouvé écho chez beaucoup de gens. Et puis aussi, Le Poteau Rose, qui est l'histoire d'une femme un peu folle, qui découvre des évidences que son mari la trompe. Alors, c'est un roman qui me permet de faire dire à ce personnage-là toutes sortes d'absurdités sur la sexualité, sur la relation homme-femme, sur les hommes, sur le travail, sur l'argent. C'est un roman, c'est un page-turner, celui-là. Vraiment, il se lit avec une chute, une fin qui est...
Inattendue.
Complètement inattendue, oui.
Dominique Bertrand, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir reçu.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Je suis vraiment très contente. Alors, ne manquez pas. C'est 3 livres. C'est très bien écrit. C'est très vivant. Ça se lit très, très rapidement, Dominique, vraiment. Le Cœur Gros, mais également, on vient d'en parler à l'instant, Le Poteau Rose et Démaquillé.
Merci.
Dominique, j'ai bien hâte de lire le 4e et puis on vous réinvitera pour le 4e.
Merci, c'est très gentil.
On ne vous demande pas le thème ni rien parce qu'il faut...
Paternité.
Ah, paternité.
Ouais.
Un mot, merci.
Compliqué.
Tout est dit. Salut. Merci Dominique
Bertrand.
Merci beaucoup.
Au revoir. Merci.